Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Christophe Guillotot, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous de nous recevoir dans votre bureau au département du Rhône. Vous êtes député et président du conseil départemental du Rhône. Une vague de froid brutale s'est abattue sur le département depuis plusieurs jours. Chute de neige, parfois abondante, et surtout des températures glaciales pouvant descendre jusqu'à moins 13 degrés. Les services départementaux, notamment la gestion des routes, étaient-ils préparés ?
Ils étaient préparés comme dans beaucoup de départements. La vague de froid n'a pas été départementalisée dans le Rhône, elle a été nationale. On avait mis en amont l'alerte, on avait ouvert la VH, ce qu'on appelle la viabilité hivernale, avec des moyens nécessaires. Sur un week-end comme celui-ci, c'est 160 véhicules qui ont tourné, mais on ne peut pas être à tout moment, à tout instant, matin, midi et soir, derrière chaque entrée de maison pour assurer le déneigement. Moi, j'ai assisté samedi soir à un déneigement à la Rajas, au fin fond du département, véhicules qui passaient, et quelques minutes après, ce qu'ils avaient fait était complètement, anéanti par les chutes de neige. On a eu deux véhicules ce week-end endommagés, qui sont, comme on dit vulgairement, passés au fossé. Et qu'en plus de nos véhicules, on a aussi des sociétés privées qui viennent en renfort pour amener leur concours, parce que nos véhicules à nous tout seuls, on n'y arrive pas. C'est 16 véhicules légers, c'est 56 camions qui tournent. Voilà, c'est une infrastructure lourde. Mais qu'on met en place dès que la météo l'exige.
Justement, à ce sujet, le département, donc vous avez décidé de modifier le plan de viabilité hivernale. Conséquence, 75 km de route départementale entre Amplepuy-Tizy et Lamure ne seront pas présalées. Une décision qui suscite interrogation, colère parfois. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de modifier ce plan ?
Pour des raisons d'économie. On passe d'un département de 1,7 milliard de budget à 511 millions. Moi, je rappellerai que simplement, il y a des pays où le salage n'existe pas. Il est même parfois, il est interdit. Norvège, Suède, on ne sale pas. Vous avez des départements comme la Haute-Savoie, Savoie, on ne sale plus. C'est aux automobilistes de faire leur affaire, de leur circulation, de leur affaire pour circuler. C'est-à-dire de mettre des pneus adaptés. Ça existe et c'est parfois absolument nécessaire. On ne sait pas qu'on ne sale plus. On sale plus préventivement, on sale au bon moment, on sale, je dirais, au moment opportun. Et à côté de ça, moi j'ai des associations d'environnement qui exigent aujourd'hui qu'on ne sale plus du tout, parce que ça est complètement destructeur pour la nappe phréatique, c'est complètement destructeur aussi, parce qu'en fait c'est pas du sel, c'est une espèce de saumure très acide qui brûle tout, bien sûr la neige, mais lorsqu'elle rentre sur les bas-côtés, après elle descend dans l'eau, dans les rivières, dans la nappe phréatique, elle fait des dégâts considérables. C'est un vrai débat engagé. Pas que dans le département du Rhône, mais dans beaucoup d'endroits, pour voir comment on peut trouver des solutions environnementales. On nous a exigé, de par la loi, le zéro phyto, de ne plus mettre d'engrais pour brûler les herbes. Et vous verrez qu'un jour, il y aura la même chose pour, entre guillemets, le salage, qui n'est pas du sel, qui est une espèce de saumure qui brûle tout. Je préconise, moi, plutôt des endroits qu'on mette du sable, parce que c'est moins polluant, c'est moins destructeur, et ça accroche tout autant.
Vous allez le faire cette année, mettre du sable ?
Non, pas cette année, parce qu'on n'y est pas préparé, parce qu'on avait fait les provisions qu'il fallait, mais de dire que certains ont dit qu'on ne sale pas, c'est faux. On sale quand il y a besoin, on sale quand la météo l'exige, mais avant, on avait ce qu'on appelle le salage préventif qu'on passait et qui rassurait les uns les autres. Moi, j'invite aussi vos auditeurs, ceux qui sont dans des endroits compliqués en termes de virage géographique, de faire poser sur leur véhicule des pneus adaptés, des pneus mèches, qu'on appelle. Il y a des endroits, c'est obligatoire pour prendre la route. Vous allez en Savoie, Haute-Savoie, c'est obligatoire. Vous n'avez pas de... Quand vous allez en station de ski, c'est bien marqué en bas, et les gendarmes parfois vous interdisent de monter si vous n'avez pas les pneus adaptés ou les engins pour la neige adaptés. Il faut qu'on soit conscient, dans le département, il y a des endroits qui sont géographiquement plus élevés que d'autres. Quand vous allez au col des Brosses, quand vous montez au-dessus de Tizy, on est à des altitudes entre 600 et 800 mètres. Là, il y a de la neige, il faut s'équiper. Il faut s'équiper convenablement pour conduire sur ces endroits neigeux.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous faites des économies sur le dos de la sécurité des automobilistes ?
Je dis que c'est une vision de l'esprit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu plus d'accidents cette année parce qu'il y avait du sel ou pas de sel. J'ai vu, moi, vendredi soir, la circulation qui était complexe. Pour descendre de la Rajas, j'ai mis 1h30. J'ai vu au milieu de mon passage à Saint-Martin-Haut une belle voiture qui m'a doublé. Quand je suis arrivé à Messimi, elle était dans le fossé. Voilà. Il faut adapter sa conduite. Je ne fais pas des économies sur le dos de la sécurité. S'il y a quelque chose chez nous qui nous anime, c'est bien la sécurité à l'égard des jeunes, à l'égard des jeunes cyclos, ceux qui sont en cyclo, à l'égard de tel ou tel. Mais on ne peut pas assurer, je dirais, le transport facile devant tout le monde quand il y a de la neige. Je vous dis 160 véhicules. Voilà. Mais c'est les mêmes, exactement les mêmes, qui viennent vous dire « mais il ne faut pas augmenter les impôts ». Ce qu'on fait, pour cela, ils ne nous disent pas « merci ». Mais c'est les mêmes qui nous disent « ah oui, mais on ne veut pas payer plus ». Le service public, pardonnez-moi, c'est un service que l'on décide, mais qui a, dans lequel on va chercher l'argent dans la poche du contribuable. Nous, simplement, le contribuable, on le respecte. On fait en sorte de ne pas jeter l'argent par les fenêtres et on ne jette pas le sel par les fenêtres.
17 000 cambriolages recensés dans le département du Rhône en 2016, un chiffre qui fait du département le champion en la matière en France, 9,55 cas pour 1000 habitants. C'est le territoire le plus visé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse de cette situation?
C'est une résultante, je dirais, de la posture de l'État. Sécurité des personnes et des biens en France, si je ne me trompe pas, elle relève du ministère de l'Intérieur, du ministre. Voilà, c'est, pardonnez-moi de faire un peu de politique, hein. On a un gouvernement qui ne tient pas ses engagements, et l'occurrence sur la sécurité, pareil. On nous met des policiers, des gendarmes à Paris pour rassurer les gens, c'est très bien, mais il en demeure pas moins qu'on a besoin aussi de forces de sécurité dans nos campagnes, et que là, on a des brigades qui n'ont pas assez de gendarmes. On a une recrudescence, ok, mais voilà, ça relève aussi, je dirais, de la compétence de l'État, et non pas du tout celle du département. Ça peut relever aussi la compétence de police, du pouvoir de police du maire, voilà. Donc c'est une question qu'il faut plutôt poser à l'État que collectivité comme le conseil départemental qui n'a pas compétence de police, hormis sur ces routes départementales, pour les infractions routières.
Quelles sont les mesures que vous allez peut-être préconiser au préfet de police, par exemple, pour enrayer ce triste record?
Moi, je n'ai pas de conseils à donner au préfet de police, mais je crois qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient visibles sur le territoire, policiers, gendarmes. Moi, quand je rentre le soir chez moi à Vaugirard, quand je me fais arrêter pour me faire contrôler, je dis que c'est très bien. Je dis que c'est très bien. On manque parfois dans certaines brigades d'hommes et de femmes pour assurer, bien sûr, une présence au quotidien. C'est pas facile, c'est des territoires qui sont grands, c'est des territoires comme en ce moment qui sont en termes de circulation. Mais je crois qu'il faut dissuader par la présence, il faut dissuader par, je dirais, les effets de contrôle. Ça a une importance d'être présent. Voilà. Simplement, peut-être qu'à certains endroits, il faudrait renforcer, et pas mettre que des policiers et des gendarmes pour protéger les gares, les centres urbains, ce qui est légitime dans l'état dans lequel on est en France, c'est un état d'urgence, mais ne pas oublier ce que sont nos zones rurales.
Autre chiffre inquiétant, l'Observatoire national de la délinquance révèle, selon un article, que le Rhône serait le département le plus touché par les agressions de pompiers. 255 en 2015, 3 fois plus qu'à Paris, 5 fois plus qu'à Marseille. Des chiffres que vous réfutez, Christophe Guillotot, aujourd'hui?
Je ne réfute pas ces chiffres parce que ces chiffres, ils sont, je dirais, des chiffres exacts. Même si aujourd'hui, la préfecture les conteste, oui, c'est pas moi. Ce que j'ai reproché à ces papiers qui sont sortis, ces articles, c'est qu'on faisait un focus complet sur le Rhône. Alors, Rhône, il faut voir que dans le Rhône, il y a un Rhône administratif et un Rhône conseil général. Dans le département du Rhône, il n'y a pas d'agression de pompiers. Nous, dans le département du Rhône, les pompiers, on les aime. C'est nous qui fournissons le plus grand nombre de volontaires. Sur les 4 000 agents du sur les 6 000 agents du département, il y a 4 000 pompiers volontaires qui viennent du département. Et dans le département, à Tizy, à Monsol, à Brinda, on n'agresse pas les pompiers. Ce sont des hommes et des femmes de ces villages qui composent la force de pompiers. On agresse les pompiers dans des zones compliquées, complexes, que sont Lyon, que sont Vénissieux, que sont Vaux-en-Velin. Et là, je dis à ces pouvoirs de police de ces endroits-là d'assurer la protection des sapeurs-pompiers. Ce sont des agressions inacceptables, inacceptables, pour lesquelles, je dis, en tant que législateur, je m'insurge, parce que, je dis, on doit assurer la sécurité, ce que vous disiez tout à l'heure, des personnes et des biens, mais aussi des hommes et des femmes qui assurent la sécurité, qui sont sur le terrain, que ce soit les pompiers, mais les gens du SAMU, les ambulanciers et tous les services publics. Mêmes agressions aussi sur les contrôleurs de train. Pareil, je veux dire, tous ceux qui sont détenteurs d'une autorité et qui ont un uniforme, c'est pas une raison pour les agresser.
Vous êtes sur RVR dans l'émission Politiquement Incorrect, avec comme invité cette semaine Christophe Guillotot, le président du conseil départemental du Rhône. On est en 2017, on entame une nouvelle année. Quels sont les grands projets du département pour cette nouvelle année?
Grands projets, on a 4 grands projets, je dirais, de rénovation de collège. C'est important, c'est une compétence lourde pour nous. Le collège de Brignais, le collège de Monsol, le collège de Chazé-d'Azergues et le dernier, Mornant, qui voilà, pour des infrastructures lourdes. Et puis, je crois qu'un des plus beaux projets qu'on va avoir, c'est la construction d'une nouvelle bibliothèque départementale qui est actuellement située sur Bron, territoire de la métropole, dans les locaux de l'État, que l'État nous demande de lui restituer. Donc, on va construire un plot, je dirais, départemental, adossé à une maison du Rhône qui sera sur Chaponneau parce qu'il fallait un axe routier important pour desservir, parce que c'est là où les bibliothèques départementales et municipales et associatives viennent chercher leurs livres. Donc c'est un gros projet qui est sur 10-12 millions, tout compris. Voilà.
Au début du mois de décembre, les maisons du Rhône étaient touchées par des grèves, vous vous en souvenez probablement, contre la réorganisation des services départementaux. À l'époque, vos services avaient répondu qu'aucune décision n'était prise et que vous étiez en pleine réflexion. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette réorganisation ?
On est dans une réorganisation qui est en marche depuis un an, qui se fait dans la concertation avec, je dirais, les territoires. On ne peut pas passer de 54 cantons à 13 cantons sans réformer. On a des maisons du Rhône dans notre département qui ont plus d'agents que de gens qui viennent y chercher des documents ou des renseignements. On a plus de maisons du Rhône avec un territoire plus petit et moins de demandes que vous avez des maisons de l'Ain, par exemple, dans l'autre département. Ou quand on compare à la Saône-et-Loire, on est bien plus présent qu'en Saône-et-Loire. Donc on a une rénovation, on a une réforme à faire. On l'a fait dans la concertation. Je sais qu'il y a un syndicat qui n'est pas, je dirais, pas très enclin à avoir une évolution de la société, mais c'est une marche en avant inexorable. Je viens de présenter ce matin les vœux du département au personnel. J'y suis longuement revenu. On a eu des grèves. On a eu des gens qui ont stoppé le travail pendant 59 minutes, même pas une heure, parce qu'une heure, on leur décompte le temps de travail, et qui ont fait, sur les places de marché, circuler quelques tracts. Bon, écoutez, c'est leur choix. Moi, je préfère quand les choses se passent autour d'une table, qu'on en discute, mais le service au public sera exactement le même. On va construire, je note qu'on construit une maison des Rhônes toute neuve à Genasse, on en construit une toute neuve à Villefranche, on va en construire une toute neuve à Chaponneau, ce que je viens de vous dire, et on fait en sorte de recaler sur les territoires soit des services importants. Vous avez par exemple une maison du Rhône à Saint-Symphorien-sur-Coise, où on nous a expliqué qu'on allait la fermer. Ce qui n'est pas du tout vrai, c'est qu'au contraire, c'est une des maisons du Rhône qu'on va agrandir, pour lesquelles on va mettre des moyens complémentaires, pour lesquelles on va rapatrier, je dirais, des hommes et des femmes. Voilà, il y a aussi parfois une désinformation qui est faite. Le service à la population sera exactement le même dans nos missions qui sont les missions sociales, mais on est juste sur un redéploiement. Moi, quand certaines mairies bougent leur service ou diminuent tel service à la population, le département du Rhône ne leur dit pas que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que chacun conduit sa politique à l'aune de ses moyens et de sa vision de ce qu'il peut offrir à sa population.
On va parler de politique. Il ne vous a pas échappé que les élections législatives vont bientôt arriver. François Fillon a fait un Conseil national des Républicains, durant lequel il a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur la loi concernant le non-cumul des mandats. Vous êtes concerné, vous avez été réinvesti. Est-ce que vous avez choisi entre la députation ou le Conseil général ?
Je crois que dans ma famille politique, sur 14 circonscriptions, je crois qu'on est 11 ou 12 à être concernés. Moi, je suis concerné, comme vous le dites. Enfin, François Fillon a déclaré, je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que vous verrez, le prochain coup, les candidats ne seront que des candidats issus des partis politiques ou les battus ou ceux qui seront, je dirais, à recaser. Vous aurez plus ces hommes et ces femmes issus, je dirais, d'un territoire qui défendent tel ou tel territoire. Vous verrez que du coup, on modifiera le scrutin des sénateurs, parce que pour être sénateur, aujourd'hui, il fallait être un élu local, vous représentiez les maires, mais maintenant, les sénateurs les plus gradés seront des conseillers municipaux, puisqu'on ne pourra plus être maire. Donc tout ça va faire que, pardon, on va tirer par le bas la vision, l'objectif d'un travail parlementaire. Voilà. Vous aviez des hommes et des femmes, ce qui est mon cas, issus, de la première marche, de conseil municipal, après président de structure intercommunale, qui avaient des responsabilités. Moi, le jour, quand je suis à Paris, je demande un rendez-vous à un ministre pour mon département, comme c'était le cas pour le câblage. Quand je suis reçu dans les trois jours, je ne suis pas reçu dans les trois jours parce que je suis président de département, c'est parce que je suis parlementaire. Je veux dire que déconnecter la vie parlementaire, je dirais, de l'assise locale est une mauvaise chose. Bon, c'est une loi sur laquelle le candidat Fillon ne souhaite pas revenir. Bon, ok, on aurait pu au moins laisser le temps aux gens qui avaient un mandat de finir leur mandat, c'est-à-dire aller jusqu'à la fin de leur mandat pour lequel ils avaient été élus, et pas les mettre dans une obligation de démissionner. Donc le moment venu, je ferai savoir quelle sera ma position, quel choix de mandat je ferai. Je le ferai en temps utile et en temps normal.
On a dit que vous préféreriez le département.
On a dit qu'on ferait, que je préférais le département. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire qui va être président de la République ? Personne. Et selon, je dirais, celui qui sera, je dirais, à l'Élysée. Parce qu'une élection législative, c'est une élection extrêmement politique. On en déplaise à tous ceux qui veulent être candidats. Moi, dans ma circonscription, la dernière fois, il y avait 17 candidats. Donc on tombe dans une espèce de bêtise absolue. Selon celui ou celle qui peut être prise en la rue, parce que celle n'est pas à exclure, il faudra des candidats qui ont un programme, des candidats qui ont de l'expérience, des candidats qui connaissent un peu la chose parlementaire. Et en fonction du résultat des présidentielles, moi, je prendrai ma décision, soit d'être candidat d'un côté, soit d'être en autre. Mais pour le moment, j'avoue, je dis qu'aussi, il y a 5 ans, j'avais annoncé ma candidature début mai, pour une élection en juin. Donc s'il laisse encore le temps à quelques, je dirais, impatients de tourner en rond dans leur future campagne. Bon, voilà. Je ne pense pas que la politique départementale attende la décision de Christophe Guillotot, parce que les élections aujourd'hui, celles qui focalisent les Français, c'est l'élection présidentielle. Comment elle va se passer, qui va gagner les primaires de la gauche, qui va être en campagne après ses primaires, voilà, sous quelle forme. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe les Français, c'est la présidentielle et pas le sort de Christophe Guillotot ou tel homme politique qui est en situation de cumul. Les élections législatives, elles seront avec un deuxième tour le 18 juin. Ça se laisse le temps encore de s'y préparer et de prendre la bonne décision au bon moment.
Merci à vous, Christophe Guillotot. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver l'interview de Christophe Guillotot, le président du Conseil départemental du Rhône, sur notre site internet www.rvradio.fr. Merci de votre fidélité et à bientôt.